n'est pas au berceau bon ou mauvais décideur. La décision, ça se travaille, ça s'apprend, ça évolue, ça se pense.
Bonjour et bienvenue sur ASAP. Je m'appelle Alexandre Zermati, je suis l'auteur de Self Manager et je vous invite toutes les semaines à participer à une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Marine Balançard, co-auteure de Décider, ça se travaille. Dans cet épisode enregistré pendant le confinement, Marine va nous expliquer quelle est la bonne posture du décideur et comment chacun peut améliorer sa propre prise de décision. Je laisse tout de suite la parole à mon invité.
Eh bien, bonjour Alexandre, je m'appelle Marine Balançard, je suis née à Paris. J'ai travaillé plus de 15 ans en banque d'investissement, dans les salles de marché plus précisément, qui est donc un univers de décision à haute fréquence et un univers où l'on a beaucoup d'autonomie très vite. Et à la suite de cette expérience dans la banque, qui m'a beaucoup façonnée, j'ai créé une entreprise sur l'intelligence de la décision, qui est un concept qu'on a développé avec Marine de Cherizet, avec qui j'ai écrit le livre « Décider, ça se travaille ». Et l'intelligence de la décision, c'est exactement comme l'intelligence économique, on ne peut pas s'en passer, et c'est cette capacité à adapter sa décision à l'environnement, aux collaborateurs, au terrain et aux circonstances. Le livre s'appelle « Décider, ça se travaille ». C'est un livre qui a été créé pour répondre à une constatation. J'ai beaucoup travaillé dans la banque, 18 ans exactement, et j'ai vu qu'on était très bien entouré, très aidé. Il y avait des moyens financiers, humains, il y avait des très bons back-office, des très bons juristes, et pourtant, on était formés, on était très bien formés, très aidés. Et motivés, et pourtant, il nous arrivait de prendre des décisions pas du tout réussies ou pas du tout ajustées, alors même qu'on voulait bien faire. Et donc, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on ne nous avait pas dit sur la décision, qu'est-ce qu'on ne nous a pas appris, et comment se fait-il que si l'on comprend le sujet, ça ne suffise pas à prendre une bonne décision. Et tout l'objet de ce livre, qui s'adresse aux bons décideurs et aux moins bons décideurs, en tout cas ceux qui s'estiment bons ou moins bons décideurs, et ça reprend tout ce que l'on devrait savoir sur la décision, c'est-à-dire la première chose, c'est avec quoi est-ce qu'on décide, qu'est-ce qui est en jeu dans la décision. Et souvent, les gens nous disent que c'est surtout la rationalité qui est importante dans la décision. Or, on sait maintenant, et c'est très intéressant, que ce qui est au cœur de nos décisions, ce sont nos émotions, par exemple. C'est le réacteur nucléaire de la décision. Et donc, si on ne maîtrise pas ces émotions, si on ne comprend pas ou si on les écarte, si on les laisse au pas de la porte de l'entreprise, déjà, on se prive d'une énorme ressource pour la décision. Et la deuxième chose qui est très importante pour la décision, c'est le corps. On sous-estime complètement le rôle du corps en entreprise. Et pourtant, c'est par le corps que nous percevons notre environnement. C'est par le corps, par nos cinq sens, que nous percevons les autres, les réactions des autres, l'atmosphère, tout type d'informations qui sont extrêmement importantes pour pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est une des limites du télétravail, effectivement, c'est qu'on perd 90% de la saveur de ce qu'on devrait connaître. Quand on fait l'audit d'une entreprise, si on le fait sur une feuille Excel de son bureau, c'est pas pareil que si on va visiter l'entreprise. Qu'est-ce qui est en jeu dans la décision ? Ce qui compte beaucoup dans la décision, Et parfois, le décideur se concentre beaucoup trop sur quel choix je vais faire, quelle décision je vais prendre. Et il ne se concentre pas du tout sur comment je vais prendre la décision. Et il ne se concentre pas du tout sur comment cette décision va être reçue et comment je vais la faire appliquer. Et en fait, la décision, c'est une chose, mais ce qui compte beaucoup, c'est toute la préparation de la décision. Est-ce que je vais décider seul? Est-ce que je vais décider à plusieurs? Si je décide à plusieurs, qui est-ce que je vais impliquer? Combien de temps je vais prendre pour décider? Quand est-ce que je vais reprendre la main? Tout ça, c'est très important parce que ça conditionne beaucoup l'application de la décision ensuite. On s'aperçoit en entreprise que des très bonnes décisions peuvent ne pas être appliquées simplement parce que la décision a été mal prise, ou trop vite, ou par un décideur trop solitaire ou trop autoritaire. Et cette décision qui n'est pas appliquée n'est donc pas une décision réussie, même si c'est la meilleure décision. La décision est très peu, on travaille très peu la façon de décider. On décide depuis qu'on est né, et très rarement on se pose la question de comment est-ce qu'on décide, qu'est-ce qui est à l'œuvre quand je décide. Et donc on décide beaucoup par automatisme, par habitude, et donc avec l'expérience, normalement on doit devenir un meilleur décideur, puisqu'on a eu des retours sur ces décisions, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui manque, et c'est tout l'objet du livre, c'est ce recul sur la façon dont on décide et ce qu'on veut mettre en œuvre dans la décision, c'est-à-dire la préparation, la décision elle-même, et surtout l'application de la décision, qui est un énorme chantier qui demande une énorme énergie et qui dépend évidemment de, comme je disais, de la préparation. Et donc, c'est justement ne jamais réfléchir à la façon dont on décide fait qu'on s'améliore, mais assez lentement, et qu'on ne comprend pas toujours pourquoi les décisions ne sont pas appliquées, alors que c'était des bonnes décisions. Mais ce qui compte beaucoup, c'est toute la préparation de la décision. Il n'y a pas vraiment de méthode de prise de décision pour prendre des décisions réussies. Il y a juste un premier travail, c'est une étape indispensable, c'est que le décideur doit toujours se demander comment je vais prendre cette décision. Ça, c'est très important de savoir comment, avec qui et combien de temps j'ai pour prendre la décision. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut partager avec ses collaborateurs l'objectif attendu. C'est-à-dire que la décision, ce n'est pas un coup près qui va trancher dans la douleur. Il faut absolument que tout le monde comprenne le résultat attendu. Et le manager donc, va accompagner la décision en laissant toujours un espace d'autonomie à ses collaborateurs qui vont pouvoir s'approprier la décision. Si les collaborateurs ont bien en tête le résultat attendu de la décision, on peut leur laisser une certaine autonomie dans la réalisation de l'objectif. C'est ce que disait Charles de Gaulle d'ailleurs, donc c'était dans le champ militaire, mais il disait qu'il partageait le résultat attendu, mais qu'il laissait une certaine liberté dans la réalisation pour atteindre ce résultat attendu. Et c'est très important parce que à partir du moment où les personnes ont une certaine autonomie, ils développent une motivation. Et s'ils comprennent l'objectif, ils développent également une motivation. Ils partagent un projet commun. Ils mettent en œuvre une décision, parfois avec beaucoup de créativité, d'innovation. Partager avec ses collaborateurs l'objectif attendu. Alors, le rôle de l'expert dans la prise de décision est très important parce que l'expert, justement, va apporter son regard, sa connaissance, son expertise. Il va éclairer le sujet avec tout son savoir et ses connaissances. Et l'expert n'est pas censé prendre la décision à la place du décideur. Il va l'éclairer, il va surtout éclairer et montrer les risques de l'éventuelle décision, mais jamais il ne faut laisser l'expert prendre la décision, parce que ça n'est ni son travail et ni une capacité qu'il aurait, puisque l'expert est doté de son, enfin, est dans son expertise et n'a pas forcément la vision globale pour l'entreprise ou l'organisation. Donc, il n'est pas forcément à même de voir tous les aspects d'une décision. Donc, c'est très difficile pour un expert de se défaire de son expertise et de voir la situation d'une façon globale. C'est ce qui était arrivé à John Kennedy dans sa mauvaise décision de débarquement à la baie des Cochons à Cuba. En fait, il a avoué qu'il avait été embarqué par ses experts militaires qui avaient l'air très confiants et très certains qu'ils pouvaient débarquer à Cuba et renverser Fidel Castro. Et lui, jeune président, s'est laissé embarquer par cette expertise et a complètement changé sa façon de décider après, en disant « plus jamais je laisserai des experts décider à ma place ». L'expert n'est pas censé prendre la décision à la place du décideur. En fait, un décideur ne partage pas que sa décision, il partage d'abord le résultat attendu. Et la décision n'est qu'une déclinaison ou qu'un instrument au service du résultat. Ce qui est intéressant dans la décision, justement, c'est qu'en France, on est assez centralisé, on a l'impression qu'il y a des décideurs qui sont bons et puis on peut les suivre et se laisser porter. Or, la décision n'est pas que l'apanage du manager ou du chef d'État ou des chefs en général. Chacun prend des décisions dans toutes les organisations et en entreprise, même le dernier dans la pyramide hiérarchique prend des décisions. Il a un espace de décision, tout le monde a un espace de décision. Et si on ne se l'approprie pas, si on pense que les autres vont décider pour nous, eh bien on perd de la motivation, on perd de l'efficacité. Et c'est ce qui est passionnant dans la décision, c'est que ça concerne le PDG aussi bien que le collaborateur le plus bas dans la hiérarchie. En fait, un des travaux du décideur, c'est de faire comprendre à ses collaborateurs quel est son espace de décision, quel est le terrain de décision du collaborateur si ce dernier ne le voit pas. Voilà. Et à partir du moment où il l'a compris, la deuxième chose, c'est de laisser évidemment le collaborateur décider et éventuellement faire des erreurs. C'est ce fameux droit à l'erreur qui est souvent proclamé, mais qui est très important, c'est-à-dire que l'erreur, ce n'est pas une faute, l'erreur, c'est une expérimentation qui n'a pas réussi. Quel est son espace de décision ? Quel est le terrain de décision du collaborateur si ce dernier ne le voit pas ? Moi, j'aime bien l'exemple de Gaulle quand il a choisi de partir en Angleterre après avoir tout essayé en France. Et il est parti en Angleterre, je pense que ses chances de succès étaient de 1%. Et il n'a pas attendu que les autres lui disent « mais oui, c'est très bien, essaye, bon, tu n'as aucune chance d'y arriver ». Il avait justement une vision, il a désobéi, il a poursuivi en fait son objectif sans attendre l'assentiment de tout le monde. Et il a fini par embarquer avec lui un certain nombre de personnes et par retourner la situation, et il a fini par faire asseoir la France à la table des vainqueurs, ce qui est quand même un tour de force. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, la décision audacieuse avait quand même une forte probabilité de ne pas réussir, ce qui n'empêche pas et ce qui n'a pas empêché le décideur d'y aller. Voilà, si on est convaincu, ça me fait penser à Jeff Bezos aussi, quand il travaillait dans la banque et qu'il avait un travail bien tranquille et qu'il s'est dit « tiens, je pourrais peut-être développer de la vente de livres en ligne », c'était audacieux, il ne savait pas trop et il a tout lâché pour faire ça. Il ne savait pas s'il allait réussir, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la vision et l'état attendu, le projet. Thank you. pour la décision, c'est pareil, et d'autant plus quand on décide en incertitude, comme maintenant, on n'a pas tellement intérêt à... En fait, on a intérêt à expérimenter des décisions et des projets plus petits et d'essayer d'avoir effectivement un impact... En fait, de ne pas déployer des moyens trop forts et trop vite quand on ne connaît pas exactement l'impact de la décision. Et ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'on déploie beaucoup de moyens pour des décisions. Par exemple, on a implanté un nouveau logiciel dans l'entreprise. On déploie des moyens colossaux et en fait, on s'aperçoit à la fin que c'est inutilisable pour les collaborateurs, que les clients n'arrivent pas à se pluguer et qu'on a oublié dans la décision. On a pris la meilleure décision possible, c'est-à-dire le meilleur logiciel, le meilleur système informatique. Et on s'aperçoit qu'avec tous ces moyens, la décision n'a pas l'impact escompté parce qu'on a complètement sous-estimé les parties prenantes à la décision. Donc, ce n'est pas vrai qu'on est soit bon, soit mauvais décideur. C'est un apprentissage. Et avec le temps, avec la formation, avec la prise de recul, tout le monde peut devenir un excellent décideur. La décision, ce n'est pas du tout une histoire de chef. Ça concerne chacun d'entre nous, du plus haut au plus bas niveau de l'entreprise. Et quand on travaille la décision en entreprise, on travaille au niveau très haut et au niveau les plus bas, ce sont les mêmes ressorts pour chacun. Chacun a un espace de liberté, chacun a un espace de décision et c'est de la responsabilité de chacun de reconnaître son espace de décision. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire « c'est ça ton espace de décision », c'est à nous de le reconnaître et souvent il est beaucoup plus large que ce qu'on imagine.
Je remercie Marine de s'être prêté au jeu, et je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous.